Ariane sur l'archipel interdit. Une création sonore de Radio Utopia, librement inspirée du roman Island d'Aldous Huxley et réalisée avec les habitants et les habitantes du territoire Vézère-Monédière Mille Sources avec le soutien des ateliers Médicis. Épisode 9. Éducation palanaise.
Mes pas m'amenèrent sur une crête qui dominait deux descentes à pic, au fond desquelles il y avait à gauche un lac frangé d'arbres. Débouchait sur une large corniche serrée de trois côtés par un mur de roches rouges qui s'élevait à plus de 2000 mètres en une succession de crêtes dentelées et de pics isolés. Il y avait là des jeunes gens chaussés de souliers à crampons et en tenue d'alpiniste qui se frayaient un passage le long d'une cheminée surplombant le précipice. Ils étaient accompagnés par deux adultes qui vinrent se présenter à moi. Monsieur Razoa Ramayana, le sous-secrétaire à l'éducation, et Madame Narayan, la directrice de l'école, toute vêtue de rose, avec des coraux autour du cou et aux oreilles.
J'ai entendu parler de vous par nos jeunes élèves. Êtes-vous spécialement intéressée par l'éducation ?
Spécialement ignorante serait plus juste. C'est pourquoi j'aimerais avoir une idée de la chose.
Eh bien, vous êtes venue au bon endroit. Notre école est l'une des meilleures.
Quel est votre critère d'une bonne école ? Obtenir des diplômes, apprendre un métier, obéir aux impératifs catégoriques du pays?
La question fondamentale demeure, à quoi sont destinés les garçons et les filles?
Pas plus à la consommation en masse qu'au renforcement de l'État, j'imagine.
Les garçons et les filles palanais sont destinés à se réaliser, à devenir des êtres humains accomplis.
On en revient aux réflexions sur le comment et le pourquoi. Devenez ce que vous êtes vraiment.
L'ancien Raja s'intéressait principalement à ce que sont en réalité les gens au-delà de l'individualité. Et nous nous y intéressons évidemment tout autant que lui. Mais notre première tâche est l'éducation élémentaire. Et l'éducation élémentaire doit traiter les individus dans toute leur diversité de forme, taille, tempérament, dons et imperfections.
On aide les individus à expérimenter leur unité transcendante au milieu de tous les autres êtres sensibles. Et on leur apprend en même temps, dans les classes de psychologie et de physiologie, que chacun possède sa propre originalité constitutionnelle, que chaque être est différent de tous les autres.
Durant toute ma scolarité, les pédagogues faisaient de leur mieux pour faire disparaître toutes ces différences.
Nous commençons par évaluer les particularités anatomiques, biochimiques et psychologiques de chaque enfant. Qu'est-ce qui domine ? Son ventre, ses muscles, son système nerveux?
Quelle harmonie ou quelle discordance ressort du mélange des éléments physiques et mentaux qui le composent?
Quelle est l'ampleur de son désir inné de dominer, ou d'être sociable, ou de se retrancher dans son fort intérieur? Et comment procède-t-il dans la pensée, dans la perception ou dans la mémoire?
Est-il un imaginatif ou un non-imaginatif? Son esprit fonctionne-t-il avec des images ou avec des mots? Ou bien avec les deux à la fois? Ou ni l'un ni l'autre?
Dans quelle mesure sa faculté de mensonge s'extériorise-t-elle?
Comment empêcher l'éclat et la fraîcheur de se faner dans la lumière de chaque jour?
Et comment pouvons-nous éduquer ces enfants au niveau du concept sans détruire leur aptitude à l'expérience intense et non verbale?
Il y a des douzaines d'autres questions qui doivent être posées et résolues.
Par exemple, cet enfant absorbe-t-il toutes les vitamines de sa nourriture? Est-il sujet à une déficience chronique qui amoindrirait sa vitalité, assombrirait son humeur et lui donnerait des idées folles et méchantes?
Et le glucose de son sang? Et son souffle?
Enfin, à quel point sera-t-il influençable en grandissant?
Je vois que vous me posez de nombreuses questions minutieuses. Et que faites-vous quand vous avez trouvé les réponses?
Nous commençons à les éduquer en conséquence. Nous trions les enfants les plus timides, les plus crispés, les plus hyper nerveux et les introvertis. Et nous les réunissons dans un seul groupe. Puis, peu à peu, le groupe est élargi. D'abord sont introduits quelques enfants possédant une tendance aveugle à la sociabilité, puis un ou deux enfants possédant une tendance à l'agressivité et à l'amour du pouvoir.
Nous avons trouvé que c'était la meilleure façon d'amener des petits garçons et filles appartenant aux trois pôles extrêmes à se comprendre et à se tolérer mutuellement.
Après quelques mois d'un mélange soigneusement contrôlé, ils sont prêts à admettre que les gens qui ont une complexion héréditaire d'une espèce différente ont tout autant qu'eux le droit d'exister.
Et le principe est explicitement enseigné, progressivement appliqué. Dans les petites classes, nous concevons l'enseignement en termes d'analogie avec des animaux familiers.
Si l'on parle ainsi en parabole animale, même un tout petit enfant peut comprendre le fait de la diversité humaine et la nécessité d'une patience, d'une indulgence mutuelle.
Les chats aiment à être seuls.
Les moutons aiment à se rassembler.
Les martres sont féroces et ne peuvent être apprivoisés.
Les cochons d'Inde sont doux et aimants.
Êtes-vous une personne chat ou une personne mouton ?
Une personne cochon d'Inde ou une personne martre ?
Je sais pas trop. Chat, peut-être.
Chez les enfants martres, il faut transformer leur agressivité maîtresse en VAD.
En VAD ?
Voix de l'action désintéressée.
Et comment vous faites pour les rééduquer ?
C'est très simple. Vous prenez l'énergie engendrée par la crainte ou par l'envie. Et au lieu de l'utiliser pour faire quelque chose de malfaisant, vous la dirigez sciemment dans un sens où elle peut faire quelque chose d'utile, de bon, sinon au moins d'inoffensif.
Prenons un cas simple. Un enfant en colère ou frustré a une énergie suffisante pour éclater en sanglots ou se battre. Si cette énergie est suffisante, elle l'est aussi pour courir ou danser ou faire 5 respirations profondes. Toute personne irritée pratiquant la respiration profonde libère une tension énorme et peut ainsi plus facilement se conduire rationnellement. Nous enseignons donc à nos enfants toutes sortes de jeux respiratoires qu'ils accompliront notamment quand ils sont en colère ou bouleversés.
À chaque fois que vous vous irritez, remplissez vos poumons. Respirez.
Et les enfants le font vraiment ?
Après quelques semaines d'enseignement, la plupart le font très naturellement.
Les enfants par l'année reçoivent une formation de l'esprit-corps total, sous tous ses aspects.
L'esprit-corps total ?
Je vous donne un exemple. L'enseignement scientifique commence par la botanique. Nous commençons prosaïquement par le manuel scolaire. Les enfants apprennent les faits évidents, élémentaires, classés avec soin dans les fichiers.
Botanique pure, c'est la première phase.
Après quoi ? Nous faisons ce que nous appelons la construction du pont, c'est-à-dire que nous essayons de leur faire faire la liaison entre tout ce qu'ils ont appris dans les leçons précédentes et l'art, le langage, la connaissance de soi.
Botanique et connaissance de soi, comment construisez-vous un tel pont ?
C'est vraiment très simple. Chacun des enfants reçoit une fleur ordinaire, un gardénia par exemple. Scientifiquement parlant, qu'est-ce qu'un gardénia ?
Des pétales, des étamines, un pistil. Un ovaire et tout le reste.
On demande aux enfants d'écrire une description analytique complète de la fleur, illustrée par un dessin. Après, on leur demande de méditer, puis de regarder simplement la fleur, pas comme les savants ou les jardiniers.
Libérez-vous de tout ce que vous savez et observez, avec une innocence totale. Observez comme si vous n'aviez jamais rien vu de semblable auparavant. Observez avec vigilance, passivement, réceptivement. Sans étiqueter, juger ni comparer.
Puis, on demande aux enfants de traduire leur expérience en mots. Lorsqu'ils ont fini d'écrire, ils regardent la fleur de nouveau, puis ferment encore les yeux une ou deux minutes. Après, ils dessinent ce qu'ils ont vu les yeux fermés. Enfin, les enfants comparent leurs dessins et leurs écrits. Les descriptions analytiques et les illustrations scientifiques sont souvent très similaires, tandis que les autres dessins et observations sont très différents les uns des autres.
Depuis les grenouilles jusqu'aux nébuleuses hélicoïdales, tout est observé, aussi bien sous l'angle scientifique que sous l'angle conceptuel, aussi bien comme une réalité esthétique que comme une expérience spirituelle. La formation de la réceptivité permet aux enfants de comprendre la différence entre les mots et les événements, entre la connaissance des choses
et le contact
des choses.
Et les enfants apprennent tout cela facilement ? Il n'y a aucune résistance.
Nous leur enseignons aussi la DP rudimentaire.
Qu'est-ce que c'est ?
La détermination personnelle.
Alias, le contrôle de la destinée.
Nous pouvons contrôler la destinée.
Une destinée meilleure portée par les germes d'une race meilleure, qui est la manifestation d'un karma meilleur.
Et de nouveau, les ondes surgirent dans mon cerveau. Elles déformaient la voix des professeurs qui semblaient se transformer en créatures monstrueuses. Des bribes de mots terrifiantes se mêlèrent aux ondes.
Nous avons une banque centrale des races supérieures.
Race supérieure de toute espèce de physique
et de tempérament.
Утопия. Что такое утопия? Действительно, утопия — это то, что существует по ту сторону времени и по ту сторону места. То, что имеет существование, скажем так, несколько эфемерное.
Envie de trouver les mots qui réinventeraient le monde. Réconcilier chacun et l'autre.
И я бы сказала то, что утопия, конечно, очень геометрическая и очень детерминированная.
Ouvrir des portes et peindre des oiseaux.
То есть, скажем так, геометрическое в смысле Спинозы. То есть...
Radio Dystopia. La radio dans vos... Radio Dystopia. La radio dans vos rêves.
L'utopie, c'est un terme que finalement j'ai écarté parce que ce terme ne correspond pas exactement à ma philosophie de la vie, le rapport que je peux avoir avec la réalité. Et ça rejoint aujourd'hui ce qu'on appelle la critique de la modernité, si on veut parler en termes de philosophie, à savoir de concevoir les choses comme quelque chose de séparé. Il y a le sujet, il y a l'objet, la pratique, la théorie, etc. Pour moi, les choses ne se passent pas comme ça. Et effectivement, projeter à partir de ce qu'on conçoit une réalité désirable future, ben c'est pas ça la vie, c'est pas comme ça que les choses se passent. J'irai peut-être même plus loin parce que je pense que l'idée de révolution procède même de cette manière de voir les choses, de voir la vie. Et il y a pour moi un monde auquel on participe qui se déroule. Il faut dire qu'on ne peut pas complètement l'appréhender parce qu'on est à la fois dedans, acteur, et on est dans le paysage. Donc c'est cette manière de voir la vie et de voir l'histoire, de voir la réalité et de la vivre en même temps, ce rapport au réel, cette question d'être dans un milieu qui fait que pour moi, ça appartient à l'utopie, une catégorie de pensée qui aujourd'hui montre ses limites.
Des exemples d'utopie, par exemple l'Ukraine qui essaie de créer un état complètement utopique en ce moment. Ça, c'est vraiment une situation très intéressante. Ils ont fait un film justement utopique. Ils ont fait une comédie, une série télévisée sur un simple professeur. Et donc c'est un acteur très célèbre qui joue le rôle principal de ce professeur. Un jour, un élève filme avec son téléphone son conversation avec un autre collègue, un autre professeur, et il dit une tirade assez obscène en parlant de gouvernement du pays et de la situation politique dans le pays. Et le jeune homme, l'élève, met ça sur YouTube. Et le lendemain, c'est des millions de vues, millions de likes. Et la fin d'histoire, ce professeur, malgré lui, devient président du pays. 2 ans plus tard, le même acteur devient le président, c'est le président actuel de l'Ukraine. Oui. Et il a été élu à 75%. C'est dans la vie. L'acteur et le président actuel de l'Ukraine, c'est M. Zelensky. Et peut-être que les gens qui votaient pour lui, déjà, ils n'aimaient pas du tout le président précédent, et donc ils votaient contre lui, mais il n'y avait pas d'alternative, donc ils votent pour celui-là qui, en plus, a donné cette image dans le film. Et le film, il y avait plusieurs saisons, c'était un succès énorme. Et maintenant, il fait la même chose que le précédent. C'est-à-dire, il n'a tout ce qu'il a promis pendant la campagne présidentielle, il n'a rien fait, il n'a rien accompli. Il se métamorphosait, en fait.
L'homme, depuis qu'il pense, il imagine l'idéal. Sinon, je pense, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on ne peut pas avancer, on ne peut pas vivre sans avoir un objectif d'amélioration pour soi, pour la planète, pour ses enfants. Mmh. On ne ferait pas d'enfants si on pensait que ça irait toujours plus mal.
Il y a quand même... Oui, mais regarde, depuis les Incas qui ont disparu, les Mayas, les Égyptiens, les Romains, c'est quand même des grandes nations qui ont disparu après 2000 ans d'existence, au minimum. Donc,
ouais.
C'est quand même à chaque fois, quand la grande société arrive à son paroxysme, elle s'autodétruit, ouais, et elle disparaît pour une autre. Donc, il y a eu le pouvoir, la foi...
Et d'ailleurs, enfin, notre civilisation, elle montre quand même des signes de fatigue.
Oui, mais ça, on revient à Aldous Huxley qui écrit justement « La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences d'une démocratie, une prison sans mur où les prisonniers ne songeraient pas à s'évader, ouais. Un système d'esclavage où grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'adoration de leur servitude. » Nos gouvernants ont tout compris, hein. On y est complètement. On est dans une dictature démocratique, donc...
La radio dans vos rêves.
Il disait qu'il ne faudrait pas beaucoup pour que ça bascule du bon côté. Mais le problème, c'est comme des plaques tectoniques, quoi. Je veux dire, le pouvoir en train d'être écrasé par l'éthique, en fait. C'est des rencontres de plaques, quoi. Mais le problème, comme avant, avec le pouvoir, la foi a été écrasée par le pouvoir de l'argent. Parce qu'avant, la foi était quand même... C'est qui... Omniprésente, c'est elle qui gouverne le monde, hein, quand même. Donc elle a été écrasée par le pouvoir, mais c'était dur, quoi. Il y a eu des guerres. Et quand le pouvoir. Et la loi est venue écraser le pouvoir. Enfin, toi, je veux dire, je ne sais plus dans quel sens ça marche, mais en ce moment, en tout cas, on est dans cette marche, quoi. Je veux dire, de toute façon, la Terre s'est réveillée. Les géobiologues en parlent, quoi. La Terre se réveille, quoi. Donc, elle vibre vachement vite. Et on avance vachement vite. Mais ça peut être soit très doux si un pourcentage de la population augmente sa capacité de raisonnement, quoi. Je veux dire, on est dans le bon sens. Autrement, ça va être dur, quoi. Mais ça est dur, quoi. Parce que ceux qui sont au pouvoir actuel ne veulent pas lâcher prise, quoi. Donc, ils vont faire tout pour que... Voilà, après l'utopie, voilà, on en parle avec le confinement, avec le Covid-19. Il y en a des conspirationnistes en parlent, hein, disons que c'était voulu pour écraser encore une fois le mouvement de l'indépendance de l'esprit, quoi, je veux dire, pour écraser les gens, les mettre devant le. Puis encore de plus les fliquer, enfin, d'ordonner, les apeurer. La peur, voilà, ouais, bien sûr.
Radio Dystopia.
Je pense que c'est ensemble qu'on arrivera à faire des choses. Et c'est pas nous qui devrions craindre les gouvernants, mais c'est plutôt les gouvernants qui devraient nous craindre. La vraie démocratie, c'est ça, c'est le partage, quoi. Chacun a sa place et quand tu n'es plus fonctionnel, bah, tu changes déjà. Tous les ans, ça change, quoi. Je veux dire, faut faire tourner, quoi. Autrement, c'est trop facile. On installe et chacun prend le pouvoir pour soi, quoi. Je veux dire, on a tous un pouvoir, de toute façon. Il n'y a rien d'idéal, mais il faudrait avoir quelque chose qui nous permette de faire un pas, toi, en avant. Ce ne serait peut-être pas l'idéal, mais ça pourrait permettre d'avancer. C'est ça, en fait. C'est ça qui est important. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on arrête d'avoir peur, quoi. Il faut qu'on aille vers les autres, quoi. Qu'on ouvre nos barrières, quoi. Donc, il faudrait un gouvernement qui permette d'aller dans ce sens, quoi. Dire non, stop à ça, parce que ça, on sait que ça ne sert à rien, et de toute façon, on va dans le mur. Et après, construire de mieux en mieux, de mieux en mieux, et puis celui-ci deviendrait obsolète, et on dira, ah, c'était une dictature.
Au 21e siècle, il y a une autre utopie, c'est le transhumanisme. C'est l'homme augmenté, et donc qui est tout à fait contraire, à mon avis, à ces utopies-là, hein. Mais où les technologies font que l'homme, c'est comme le progrès à une époque, le progrès devait amener le bonheur, le transhumanisme devrait amener le bonheur. Bon, moi, je trouve que c'est plutôt une dystopie, mais bon, après c'est très personnel. Non ?
Of a bank, never won't stop. Shall feel dead for never going more.
Épisode 9, Éducation palanaise. Avec la voix d'Ariane von Behrendt, d'Hélène Martinez dans le rôle de Madame Narayan et de David Martinez dans le rôle de Monsieur Raswa Ramayana. Avec la participation de Manu et Jean-Mi du 5 à 7 de Madrange, de Monique, Elena et Francis, avec un poème de Cécile Desmaisons et le morceau Beyond the Void d'Emmanuel Roux, musicien en résidence à l'hôtel Experimenta. Réalisation, Élodie Chamoret, compagnie Les Funambules. Prise de son, Philippe Daudeville, Sam Bazu et Élodie Chamoret. Montage, Thierry Ginesté et Élodie Chamoret. Production, RGB, Radio KOB, la médiathèque intercommunale Vézère, Monédière, Mille Sources et les ateliers Médicis.
La suite au prochain épisode.